Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, depuis toujours, les hommes scrutent les étoiles et les manifestations du ciel font souvent l'objet d'interprétations basées sur la croyance en des entités supérieures ou des puissances divines. Des croyances qui évoluent. À l'époque de la Grèce antique, les phénomènes naturels étaient attribués aux dieux. Aujourd'hui et depuis les années 50, avec l'industrie aéronautique florissante, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN ou ovnis, qui se multiplient. Et c'est de cela dont nous allons parler au cours de cette émission Éclairage. Que recherchent les hommes à travers l'attrait ou la peur pour les ovnis? Cette croyance modifie-t-elle nos sociétés? Et si oui, de quelle manière? Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de délivrer une quelconque vérité et d'affirmer si oui ou non les extraterrestres existent, mais de réaliser en quelque sorte une étude sociologique de cet attrait pour cette science, entre guillemets, puisqu'on parle d'ufologie, voire même pour certains d'une religion. Pour en parler avec nous, Pierre Lagrange et Jacques Arnoux sont dans le studio de Canal Académie. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être avec nous ici au cœur de l'Institut de France à Paris. Alors Pierre Lagrange, vous êtes sociologue des sciences, vous me le disiez à l'instant en préparant cette émission, spécialiste de l'étude des controverses sur les parasciences et également chercheur associé au laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, auteur de nombreux livres sur ces phénomènes, hein, sur les ovnis, notamment sur Roswell, la guerre des mondes, nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques instants, et même d'un guide touristique sur Mars. Jacques Arnoux, on vous a déjà reçu plusieurs fois ici à Canal Académie, alors bien sûr vous n'avez pas changé de vos fonctions, vous êtes toujours dominicain et puis au CNES chargé de mission sur la dimension éthique, sociale et culturelle des activités spatiales et vous avez participé à la rédaction du livre « Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science » sous la direction d'Yves Sillard, un livre qui est sorti à l'occasion de la mise en ligne publique des archives du GEPAN qui n'est autre que le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui dépend donc du CNES. Nous allons donc pouvoir parler de ces légendes modernes pour lesquelles nous frémissons et à la fois nous rêvons. Et peut-être que nous allons pouvoir faire un petit retour en arrière pour revenir aux prémices de ces soucoupes volantes, vraies ou pas, on ne sait pas. Et notamment, il y a 70 ans, en 1938, avec des histoires radiophoniques, c'était donc aux États-Unis, Orson Welles. Et là, je m'adresse à vous, Pierre Lagrange, puisque vous avez publié un livre justement sur la guerre des mondes. Et tout ce que ça a suscité d'émoi au niveau des auditeurs de cette radio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour qu'on puisse mieux comprendre cette anecdote ?
Bon, déjà l'histoire, c'est le 30 octobre 1938. Orson Welles, qui est à l'époque à 23 ans, qui était un jeune réalisateur de pièces de théâtre notamment, fait des émissions de radio. Il adapte une fois par semaine sur CBS une œuvre, un classique. Quoi. Il a, la semaine d'avant, je crois qu'il avait adapté Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, des choses comme ça. Et cette semaine-là, il avait décidé de s'attaquer à la guerre des mondes de Wells, H.G. Wells, son homonyme, le romancier anglais. Un roman qui est paru en 1897. Et qui est le premier roman qui met en scène une invasion d'extraterrestres, des extraterrestres qui débarquent sur la Terre avec des intentions hostiles. Et donc Wells met en scène ce roman sous forme, il décide pour un peu dramatiser, parce qu'il est persuadé avec son équipe qu'en fait ça ne va pas prendre. Que les gens ne vont pas accrocher, que ça ne va pas les intéresser. Il faut dire que Wells n'avait pas à l'époque la célébrité qu'il a acquise par la suite. Citizen Kane n'existait pas encore. Et donc, il décide de l'adapter sous forme de bulletin d'information, comme si ça était en train de se passer. Et les auditeurs entendent une émission qui raconte comment, de flash en flash, les Martiens débarquent et massacrent tout sur leur passage. Alors, le lendemain, la presse est pleine de comptes rendus qui racontent que la panique, les Américains ont été saisis de panique à l'écoute de l'émission.
Qu'ils ont pris ça pour argent comptant.
Pour argent comptant. Et qui aurait, et au fil des ans, on raconte qu'il y a des accidents, des suicides, des embouteillages monstres et tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est une histoire un peu plus compliquée que ça. Parce que, bon, on peut imaginer volontiers que certaines personnes aient pris ça au sérieux. Mais d'abord, l'émission était clairement annoncée dans les journaux. Il n'y avait pas trop de confusion possible. En plus, la partie actualité est très courte. Très rapidement, ça redevient une pièce radiophonique. Donc, il n'y a pas trop de confusion possible. Et en fait, quand on enquête, on se rend compte que la véritable rumeur, c'est pas celle de l'arrivée des Martiens, c'est celle de la panique. C'est celle des gens qui auraient cru à l'histoire. Parce qu'au fil des années, quand on lit les comptes rendus de l'émission, et alors surtout à partir du moment où Welles est devenu le réalisateur qu'on connaît, à partir de Citizen Kane et tout, on est régulièrement revenu pour parler de sa vie, on est revenu sur cette histoire. Donc c'est devenu une histoire qui a vraiment enflé au fur et à mesure que la réputation de Welles a augmenté dans son image publique. Et donc on s'est mis à vraiment rajouter des rumeurs, des accidents, des suicides qui n'ont jamais eu lieu. Le seul accident que j'ai réussi à trouver, c'est une jeune femme qui, en descendant les escaliers, s'est cassée le bras. C'est tout. Personne ne s'est jeté par les fenêtres. Et les seuls embouteillages aussi que j'ai trouvés, c'est ceux de la police qui arrivaient à des endroits, qui se garaient n'importe où. C'était à peu près tout. Mais c'est pas tout. La plupart des histoires qu'on raconte à cause de cette émission sont fausses. Mais à l'époque, ça a énormément participé à cette mythologie qu'ont beaucoup de gens sur les croyances populaires. C'est-à-dire que on croit volontiers, nous, que les autres sont des abrutis qui font n'importe quoi et qui sont prêts à paniquer à la première histoire de Martien venu. Alors que nous, bien sûr, on garde notre calme, toujours. Et ça fait partie des croyances qui sont bien implantées, c'est-à-dire cette idée qu'il y a une coupure entre les gens raisonnables et la masse, les foules irrationnelles. Et c'est une idée qui était bien implantée depuis la fin du 19e, à travers des œuvres comme celle de Gustave Le Bon et tout. On était habitué à cette idée que la populace, en gros, et ça participait à tout un tas de croyances liées à la révolution industrielle, à l'arrivée, la façon dont les campagnes se sont vidées, dont les villes se sont remplies. On se disait, toute cette masse-là, qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces gens-là? Et donc l'histoire comme ça s'est bien implantée et c'est devenu une espèce de credo qui va ensuite ressurgir dans l'histoire des soucoupes volantes et qui va servir à interpréter les soucoupes volantes.
Et juste avant de continuer, Jacques Arnoux, dans le chapitre que vous consacrez aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, hein, ou le livre auquel vous avez participé, vous parlez de l'imagination qui a son rôle très important dans ces phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Simplement parce que dans un cas comme celui de 1938, où c'est sous des auditeurs, donc c'est des gens qui écoutent, dans le cas des phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est plus souvent du visuel, mais quel que soit le sens qu'on utilise, ça arrive dans un cerveau, ça arrive dans un être humain qui écoute ou qui voit et qui fait marcher son imaginaire, parce qu'il est simplement humain. On n'est pas des robots. Enfin, bien sûr, il y a des cas ensuite d'observation, on en parlera tout à l'heure, avec des radars d'autres choses, où on aurait pu imaginer là, des enregistrements ou je ne sais trop quoi, mais moi, je suis surtout sensible, et en réécoutant encore Pierre Lagrange à l'instant, eh bien, qu'il y a des gens. Et ensuite, eh bien, on transmet, on rajoute, la narration est évidemment un travail créateur, de fait.
Alors, vous parlez de visuel, on va avancer dans le temps. On arrive en 1947 avec, bien sûr, l'affaire Roswell. En plus, là, en 2007, on fête hein, les 60 ans de l'affaire Roswell. Là, pour le coup, l'aspect visuel joue son rôle, puisqu'on a même une vidéo qui est préparée, qui est réalisée. Là, pareil, Pierre Lagrange, vous avez publié un livre qui, d'ailleurs, fait date, hein, qui sert d'appui pour de nombreux spécialistes. Justement, sur cette affaire Roswell, est-ce que c'est là que débute l'attrait pour les soucoupes volantes? Comment on le pense, justement?
Voilà, il faut préciser une chose qui est importante. La mémoire de ces sujets est souvent très courte, elle est liée à l'actualité. Or, il y a toujours plusieurs mémoires. Moi, avec tous les dossiers que j'ai accumulés, j'ai une longue mémoire sur ces sujets. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'avant, en gros, 93-94, Roswell est quelque chose qui est très peu connu du grand public. Et avant 1980, inconnu de tout le monde, même des gens qui s'intéressent aux ovnis. L'affaire de Roswell, c'est la découverte en 1947, début juillet 1947, dans un champ du Nouveau-Mexique, de débris éparpillés, que le paysan à qui appartient le champ va les apporter à la base de Roswell. Et là, la base va émettre une dépêche en disant « on a mis la main sur une soucoupe volante ». Et quelques heures après, va se rétracter en disant « non, c'était les débris d'un ballon sonde ». Et l'affaire disparaît. Or, c'est pas l'affaire qui lance l'histoire des soucoupes volantes. Roswell se situe dans une vague de rapports extrêmement importante, où des centaines, des milliers de gens à travers les États-Unis rapportent avoir vu des soucoupes volantes. Et l'affaire qui lance l'histoire des soucoupes volantes, elle se situe le 24 juin 1947, quelques jours avant. Et c'est un pilote privé et homme d'affaires américain de l'Idaho, de Boise dans l'Idaho, qui s'appelle Kenneth Arnold, qui observe au-dessus du mont Rainier 9 engins volants étranges qui vont à 2 fois la vitesse du son. Et c'est lui qui, le lendemain, le 25 juin, rapporte ça à des journalistes de Pendleton dans l'Oregon. Deux journalistes, dont j'ai retrouvé l'un des deux qui était toujours en vie en 1988. C'est eux qui vont écrire la toute première dépêche de presse d'Associated Press qui va lancer l'histoire de ces visions, de ces observations et qui va donner un nom à ces choses-là, le nom de soucoupe volante. C'est là que l'expression est inventée. Et c'est de là que tout démarre. Avant, il n'y a pas de soucoupe volante. On voit des choses dans le ciel depuis la nuit des temps. Mais il n'y a pas de débat sur les soucoupes volantes. Et le débat part à ce moment-là. Plein d'observations vont suivre dans les jours, dans les heures qui suivent. Et l'affaire de Roswell est une de ces affaires parmi les autres. Mais à l'époque, ça n'est pas une affaire importante. C'est-à-dire que dès que l'armée dément, elle est finie. On n'en parle plus, plus personne n'en parle, jusqu'en 1980 où le premier livre sur cette affaire va sortir parce que des gens l'ont exhumé parce qu'ils ont retrouvé un des militaires de la base de Roswell qui dit non, on a menti, l'armée a menti sur ce qu'on a vu. Et c'est ça, donc c'est depuis 1980 que l'histoire est ressortie. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je dirais c'est un peu la loi des médias, le caractère un peu extraordinaire du contenu de l'affaire de Roswell fait que on a amalgamé cette histoire avec le début de l'histoire des soucoupes volantes. Alors c'est vrai que honnêtement, c'est le 60e anniversaire de l'affaire de Roswell. Mais ça ne veut pas dire que c'est Roswell qui a lancé l'affaire. En 47 et jusqu'en 80, Roswell, ça n'est rien dans les annales des soucoupes volantes. Et c'est une histoire qui va être reconstruite, remise en scène peu à peu. Et il va falloir des années pour qu'elle devienne l'affaire que l'on connaît. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine.
Avec justement, pour le coup, un public qui, dès les années 80, et encore plus en 94-95, quand on va sortir la vidéo cet extraterrestre, justement, un attrait, le public est en attente, finalement. Est-ce que ça répond pas, justement, à une demande, Jacques Arnoux, peut-être ? Est-ce que vous pensez que le public est en attente, justement, de quelque chose d'extérieur à la Terre ?
Une demande et une curiosité qui est inhérente à... non seulement à la nature humaine, mais à la nature tout court, je pense, qui est la curiosité par rapport à quelque chose ou quelqu'un, enfin un être, qui serait différent de nous-mêmes. Tout va se jouer, mais pas seulement là, sur la différence et la ressemblance. Parce que si c'est trop différent de ce que je suis ou de ce que je connais, je ne le verrai même pas, à la limite. Vous passez continuellement tous les jours devant des choses qui sont tellement différentes de vos références que vous ne les voyez même pas. Si c'est trop semblable, vous ne voyez pas non plus parce que vous rencontrez tous les jours des centaines de milliers de personnes. Mais si c'est entre les deux, là vous allez être surpris parce que vous allez être attiré à la fois par la ressemblance et la différence. Et je ne sais pas du tout, là je me tourne plutôt vers le sociologue, mais je pense que dans tous ces phénomènes, alors moi j'utilise parfois le mot d'apparition, me la reprocher, enfin, je ne sais pas si c'est... je comprends bien qu'on puisse longuement en débattre, mais est-ce que ça ne se joue pas précisément là-dessus ? Non seulement dans le domaine des ovnis ou des extraterrestres, mais quand on en discute avec des scientifiques sur l'aspect de l'astrobiologie ou de l'exobiologie, donc des formes de vie possibles ailleurs, c'est la même question. C'est-à-dire que si par hasard il existait, pas trop loin de chez nous, des formes que l'on pourrait qualifier vivantes, trop différentes des nôtres, à la limite on peut passer à côté sans les voir. Si ce sont les mêmes, alors ça, bien sûr, c'est très intéressant. Mais en même temps, c'est moins intéressant si ce sont les mêmes.
Et alors, bien sûr, toute la dimension des médias, là, notamment, je pense, en 95, lorsque sort cette fameuse vidéo qui parcourt le monde et qui arrive aussi en France avec une émission de Jacques Pradel. Ouais. Quel est l'impact à cette époque ?
Alors déjà, une première précision à nouveau. Il faut préciser beaucoup de choses avec cette histoire de Roswell, parce que c'est toujours très compliqué. C'est que la vidéo n'a rien à voir avec l'affaire de Roswell, en fait. Quand on creuse, elle est amalgamée à cette affaire par Santilly, l'anglais qui a lancé l'histoire, qui est à l'origine de cette vidéo, qui l'a fait faire. Mais en 47, on parle de débris, on ne parle même pas de carcasses d'engins. Je veux dire, ce sont des débris éparpillés dans un champ, et ça n'est que par la suite qu'on va se mettre à parler de soucoupes volantes dans les années 80 et de cadavres. C'est-à-dire que tout un tas d'histoires qui n'avaient rien à voir avec l'affaire de Roswell vont se retrouver agglutinées.
Comme la guerre des mondes, quelque sorte.
Oui, on
le
va
mythe
se mettre
gonfle.
On va réunir tout un tas d'histoires qui n'ont rien à voir. Et c'est ça qui va donner l'idée à Santilly de fabriquer cette vidéo. Parce qu'il se dit, bon, l'occasion est trop belle, quoi. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cet extraterrestre ou dans les descriptions qu'on fait souvent, c'est qu'effectivement, moi j'ai l'impression que cette histoire de débat sur les soucoupes ou le débat sur la pureté des mondes se situe vraiment dans la continuation des grands voyages d'exploration. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, on parle d'humanité différente. Et ça a toujours été le problème de savoir est-ce qu'il y avait une humanité ou plusieurs. Donc, quand on voit les descriptions qu'il y a dans les traités du Moyen-Âge ou les représentations sur les cathédrales ou autres de ces humanités, on voit ces êtres, les cyapodes, les panothéens, les cyclopes, toutes ces humanités différentes. Il y a aussi cette espèce de... à la fois, ils sont humains, et en même temps, on se demande si c'est Dieu qui les a créés. Enfin, il y a tout un tas de débats. Et on voit bien que ces portraits robots d'extraterrestres, ils sont à la fois proches de nous et suffisamment différents pour qu'on se pose toujours ces mêmes questions. Donc le débat sur la pluralité des mondes habités vraiment se trouve à la suite, je pense, de Christophe Colomb et de tous ces voyages d'exploration. C'est les mêmes questions qu'on se pose éternellement. Où sont les autres, nos semblables, et jusqu'à quel point sont-ils semblables ?
Eh bien, je vous propose de marquer une première courte pause et puis on se retrouve tout de suite après pour parler peut-être plus en détail cette fois-ci du CNES. À tout de suite.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Pierre Lagrange, sociologue, et Jacques Arnoux, chargé des questions éthiques au CNES. Alors justement, avant cette première pause, je disais que nous allions poursuivre sur le CNES. Le CNES a un service qui s'appelle le GEPAN. Le GEPAN qui est autre que le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, un terme un peu long, mais au moins on comprend ce que ça regroupe. Alors juste avant de parler de ces archives qui ont été mises en ligne et qui dès le 22 mars ont eu un pic, qui a eu un pic d'audience. Je crois que votre site a été saturé dès les premiers.
Je crois en deux heures le site a été saturé et a même fait sauter l'ensemble du site du CNES. Donc,
ce qui veut bien dire qu'il y a quand même une demande et un attrait, une curiosité.
Ce qui signifie deux choses. D'une part, peut-être que nos techniciens n'avaient pas tout à fait prévu ça. Et d'autre part, quand j'ai appris ça, je dis bah, tant mieux, puisque ça fait des mois que j'ai des collègues qui passent leur temps à scanner. Enfin, bah, au moins, les gens réagissent. Donc, on ne va pas se plaindre parce que le site saute.
Alors justement, ces internautes, que venaient-ils chercher? Ils venaient voir s'ils retrouvaient leur propre PV ou est-ce qu'ils sont en recherche d'informations?
On pourrait sans doute faire des rapprochements, ne serait-ce que par rapport à ce que vous venez de dire là, entre la consultation d'un site comme celui du GEPAN et puis la consultation de Google Earth. Cette espèce de curiosité, on va apprendre des choses qu'on ne connaît pas, ce qui n'est sans doute pas le cas. Enfin là, je me tourne plutôt vers Pierre Lagrange qui connaît mieux le dossier que moi, mais il y a de nouveau, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la curiosité et la possibilité d'accéder à un regard sans doute différent, puisque là, on a ces informations, en tout cas, nouvelles pour le grand public.
De même et que
vous pouvez, par Google Earth ou d'autres, jouer au portail, aller regarder un peu au-dessus de la clôture, de votre clôture, de celle du voisin. Donc, curiosité, ça. Et puis, sans doute aussi, on va enfin savoir ce qu'on nous cachait jusqu'à présent.
Voilà, parce qu'il peut y avoir toujours sur ces sujets-là la théorie du complot. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce que les Américains en savent plus? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré des extraterrestres? Si oui, est-ce qu'il y a une machination derrière tout ça? Le fait d'ouvrir justement les archives, ça apaise un peu, ça aplanit toutes ces questions ou alors au contraire, ça les avise?
On le savait déjà qu'on aurait quand même un certain succès, je ne sais pas si le mot est exact, mais... Parce que quelques mois auparavant, à la suite d'une annonce simplement disant « dans quelques mois, nous allons faire ça », il y a déjà eu un pic d'intérêt et de manière assez extraordinaire. C'est que nous venions de lancer un satellite Corot qui observe les planètes, entre autres les planètes extrasolaires. Donc d'un point de vue, la thématique était presque la même, si je puis dire, mais là d'une approche strictement scientifique. On envoie un télescope. Et il se trouve que l'annonce, quant au site du GEPAN, a eu lieu deux jours après. Les médias ont complètement oublié le satellite Corot, alors que c'était un peu notre grand événement de l'année 2006, ont complètement viré sur... Et on a dit, mais non, c'est dans quelques mois. Non, mais c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est vrai aussi que les médias jouent un rôle très important. Parce qu'à la limite, l'annonce par l'AFP ou l'équivalent aurait très bien pu rester dans un tiroir en disant, bah oui, on verra ça ce printemps. Tout de suite, c'était... capturé par les médias et mis sur le devant, quitte à cacher une information qui, d'un point de vue scientifique, était beaucoup plus importante.
Et alors justement, pendant cette pause, vous parliez de la différence entre autorité et vérité. Là, en l'occurrence...
Pas la différence, le lien entre
les
deux.
Le lien entre autorité et vérité.
Nous en parlions tout à l'heure aussi, c'est vous êtes le spectateur ou la spectatrice d'un phénomène, vous allez témoigner, oui mais est-ce que vous avez... Est-ce qu'en fait, non, vos témoignages sont sans intérêt parce que vous êtes une personne trop vulgaire, mais ce n'est pas votre cas, bien sûr, mais vous êtes considéré comme tel. Ou alors, au contraire, vous pouvez dire, mais attendez, moi, j'ai telle autorité. Ou alors, ce qui existe aussi, ah, mais j'ai vu ça, ou j'ai entendu, ou vous savez, vu à la télévision, ou entendu sur Canal Academy. Bon, voilà, je l'ai entendu à la radio, donc c'est la vérité. Je crois, enfin, je serais heureux d'entendre Pierre Léon. C'est tout ce rapport entre vérité, autorité, au nom de qui prenons-nous la parole ou affirmons-nous quelque chose? Et ça, on l'entend en permanence dans ce genre de débat. Ah mais moi, j'ai la vérité, donc vous avez tort.
Alors justement, Pierre Lagrange, cette différence...
Si on se replace dès le départ, en 1947, donc les premiers témoignages, les journalistes vont trouver deux types d'experts, les militaires et les scientifiques. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en fait, le débat, si on prend le débat scientifique, il n'y a pas de débat scientifique. Jusqu'à très récemment, il n'y a jamais eu de débat scientifique. Des scientifiques ont pris la parole, mais curieusement, ils se sont mis à parler de tout à fait autre chose que de science.
Parce qu'ils ne se sentaient pas crédibles?
Ah non, justement, si, au contraire, ils se sentaient très crédibles, justement. C'est-à-dire qu'on arrive en 47 à une période tout à fait particulière où le physicien devient, dans nos sociétés occidentales, le nouveau maître de vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu des siècles pendant lesquels c'était l'homme d'église qui représentait l'autorité et qui disait le vrai. Et vraiment, le scientifique, à notre époque, a remplacé l'homme d'église. Et la science est devenue le cadre de notre réalité. Et en 1947, on a une période où la profession de physicien est devenue une vraie profession. Elle a été construite pendant des décennies, où les physiciens ont construit la bombe atomique. Donc en plus, ils ont cette espèce de figure de démiurge tout à fait ambiguë, et où ils savent, ils sont censés être ceux qui savent de quoi est fait le réel. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les journalistes vont les trouver en disant « C'est quoi cette histoire de soucoupe volante ?» Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que toutes les réponses, mais quasiment toutes les réponses qui sont faites par des physiciens ou autres, astronomes ou autres qui sont interrogés, ne consistent pas à parler de physique, mais à parler de sciences sociales. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous à parler de psychologie, de psychiatrie, d'hallucinations, de témoins qui auraient trop bu ou qui auraient trop lu de science-fiction, et donc à faire des commentaires sur les témoins, mais pas sur les faits. Et alors, si on compare avec d'autres sujets scientifiques, bon, on voit bien que, en quoi consiste le travail scientifique. Et ce qui est tout à fait curieux, c'est de voir comment les physiciens sont tous reportés sur autre chose, c'est-à-dire en gros considérer que ce sujet n'avait, le message qu'il transmettait à travers ça, c'était dire foutez-nous la paix, ça ne nous intéresse pas vos soucoupes volantes. C'est de la culture populaire, c'est des croyances, des superstitions, et on ne veut rien avoir à faire avec ça. Et les réponses, ce n'était pas pour traiter le problème, mais pour s'en débarrasser. Et c'est ça, toute l'ambiguïté qu'il y a sur ce genre de sujet, c'est que longtemps, on a fait intervenir des figures de l'autorité, non pas pour qu'ils nous expliquent leur travail, ce qu'ils font dans le cadre de leur métier de physicien ou autre, mais pour essayer de se débarrasser de ce sujet-là. C'est que c'est là où on a construit une espèce de différence entre la culture savante, scientifique, et la culture populaire, la croyance, les hallucinations et ce qui s'en suit. Et l'OVNI a été relégué dans ce domaine des erreurs humaines et des croyances.
Alors justement, en ce sens, quand on parle d'ufologie, est-ce que l'ufologie est une science ou pas, selon vous, Pierre Lagrange ?
C'est une discipline. L'ufologie, c'est l'étude des ovnis. Depuis le début des années 50, des tas d'amateurs se sont regroupés justement en réaction à ces communiqués de scientifiques ou de l'armée, en disant on pense qu'il y a quelque chose et on va l'étudier nous-mêmes. C'est un peu le début des démarches citoyennes, on dirait, comme on voit aujourd'hui sur des questions scientifiques et techniques. Alors, une science est un bien grand mot. Une science, c'est... Il ne faut pas non plus, il y a différentes définitions de la science. Encore une fois, il faudrait, je pense, éviter de tomber dans la définition autoritaire, mais de regarder que fait le scientifique. Le scientifique, il a une certaine façon d'organiser son rapport au monde et de construire le savoir. Et c'est vrai que quand on regarde les ufologues, ils ont une volonté de connaissance, mais ils n'ont pas les outils, ni l'entraînement, ni tout un tas de choses qui fait qu'on peut produire des faits en science. Produire des faits en science, c'est très difficile. Ça nécessite des laboratoires, des collègues, des budgets, énormément d'organisations pour obtenir à la fin très peu de faits. Finalement, en science, c'est très difficile d'obtenir un fait. Et les amateurs, eux, ils accumulent des témoignages, ils accumulent des récits, énormément de choses, mais avec lesquels ils n'arrivent à stabiliser aucune controverse. Et je pense qu'il y a une différence entre la science et les ovnis et l'ufologie, c'est qu'en science, on arrive de temps en temps à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, il y a tel et tel fait en science. Galilée, enfin, un certain nombre de faits comme ça sur lesquels on est d'accord. Alors qu'en ufologie, depuis 1947, on débat éternellement des mêmes questions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Le seul truc sur lequel on est d'accord, c'est des gens rapportent avoir vu des choses dans le ciel. C'est à peu près tout. Mais après, sur tout le reste, dispute permanente. C'est quoi ces faits ? Est-ce que ces gens sont censés ou pas ? Est-ce qu'il faut s'y intéresser ou pas ? Vers quoi ? Vers quelle hypothèse se diriger ? Tout est en débat éternellement. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du débat sur les ovnis ou certains autres sujets d'ailleurs de société qui sont éternellement réouverts et éternellement remis sur le tapis.
Alors justement, Angé Carnoux, vous qui êtes le représentant du CNES, le CNES qui s'intéresse, en tout cas ici dans cette émission, vous qui représentez le CNES, le fait que le CNES s'intéresse et crée un organisme qui travaille spécifiquement sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est justement reconnaître qu'il y a vraiment un travail à réaliser dessus. Mais je crois que c'est une spécificité française ou européenne, car tous les centres spatiaux n'ont pas forcément un groupe tel que le GEPAN.
Là encore, je me tourne plus vers Pierre Lagrange. Moi, je dirais, quant au passé, l'histoire de ce groupe et pourquoi, c'est lié, je crois, quand même à des personnes, à des époques. Et donc là, l'histoire, c'est plutôt à l'historien de l'affaire qui est à côté de moi. Ce qui m'a beaucoup intéressé, justement, ce printemps dernier, lors de la mise en ligne et cet engouement, me semble-t-il, ça nous a apporté une justification supplémentaire d'exister. Alors, c'est pas parce que, voilà... Vous avez plein de monde, mais c'est parce que, d'une part, bon, effectivement, des choses qui ont été accumulées, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de professionnalisme, ça, c'est pas à moi d'en juger, c'est à ceux qui possèdent précisément les compétences. Ce qui m'a frappé, en prenant un peu de recul, j'ai mis au fond, pourquoi les gens ont un tel engouement ? Il y a la curiosité, peut-être aussi, mais je ne suis pas sociologue, mais j'avais réagi comme ça en me disant, mais au fond, c'est une des rares portes d'entrée pour un public dans le CNES. Parce que le CNES fait un tas de trucs extraordinaires. On lance des fusées, on lance des satellites, on fait des tas de choses. Et on va dire aux gens, regardez, bonnes gens, les choses extraordinaires qu'on fait. Toute la fumée, tout le bruit et toute la technicité. Et c'est vrai. C'est pas du tout ça que j'ai dénié. Mais dans le CNES, il y a un petit endroit qui s'appelle le GEPAN, dans lequel moi, je peux téléphoner ou envoyer un message disant, j'existe et j'ai vu un truc dans le ciel. C'est-à-dire que tout un chacun peut participer à une activité du CNES.
Vous voulez dire que c'est d'autant plus d'interactivité?
Et donc voilà, il y a une interactivité possible par ce biais-là. Je ne le dis pas tant à vous qu'à finalement à mes collègues en disant « mais voyez, c'est important ». Parce que pour une fois, on ne va pas porter la bonne parole à l'extérieur, on accepte un peu d'écouter les gens qui ont des choses à nous dire, des choses qui peuvent arriver à tout un chacun. Et c'est important de laisser cette petite porte ouverte. Alors évidemment, ça ne va pas justifier 30 ans de ce service et peut-être encore 30 ans à venir. Mais c'est comme un élément qui mérite, je crois, d'être mis en avant, qui nous concerne aussi, nous, en tant qu'agence, c'est-à-dire quel type de relation nous avons avec les publics qui sont autour de nous et comment sommes-nous sensibles à ce côté interactif que vous venez de nous donner. Pas seulement « je vais vous dire ce que vous devez savoir », mais qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous concerne, de quoi vous êtes curieux.
Alors, pour poursuivre sur ce public qui va communiquer avec le CNES, dans le chapitre, toujours, je fais référence à votre chapitre dans le livre « Les phénomènes aérospatiaux non identifiés » qui a été publié à ce moment-là, vous parlez justement que, finalement, les personnes qui s'intéressent à ça attendent un message, qu'on leur délivre un message. Or, ces ovnis n'ont pas de message spécifique à délivrer, mais c'est vrai qu'on veut absolument qu'il y ait une information à nous communiquer.
Oui, c'est, là aussi, c'est une chose qui m'a frappé en étant invité, finalement, réfléchir à cela en dehors donc d'une compétence historique ou sociologique ou même technique, c'est d'une part de constater, un peu à la suite de la réflexion de Pierre Lagrange, hein, c'est que depuis 60 ans, qu'est-ce qui a vraiment changé notre société à la suite de ces observations? Pas grand-chose apparemment. Des questions, on est en train d'en traiter, donc on peut aligner un certain nombre de questions, mais dans la société, pas grand-chose. Et en même temps, me semble-t-il, la possibilité de rapprocher ce genre de phénomènes, d'autres phénomènes où non seulement apparaît une figure autre, d'un autre, alors comme on disait tout à l'heure, ni trop différente ni trop semblable, et c'est sans doute ce qui est en jeu derrière l'affaire Roswell, parce que c'est non seulement un objet, mais c'est un être dont effectivement on constate qu'on a quand même des points de ressemblance, et puis nous apporte-t-il un message? Et il y a quand même cette question-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, ça peut être un message d'hostilité, la guerre des mondes, c'est indirectement, c'est un message « attention, nous sommes dangereux et on va vous apporter la guerre ». Ou peut-être, il y a d'autres, évidemment, dans la culture, d'autres formes d'extraterrestres qui auraient un message plus pacifique. Et là aussi, donc pas grand-chose de changé. Et quel message? Bon, on le construit peut-être aussi derrière. Mais c'est là que je fais des rapprochements, alors peut-être un peu trop osés, mais avec d'autres phénomènes que je ne connais guère plus, mais que j'en ai parlé autour de moi, du genre expérience de mort imminente, ou des autres, on rejoint à travers, vous savez, ces phénomènes, coma avancé, un tunnel de lumière, on rejoint des êtres de
tout
lumière.
Tout ce qui est du domaine du paranormal.
Voilà, et donc là, on a des messages quand même. Donc un autre qu'on rencontre, il nous donne un message, ou alors, je cite le cas du linceul de Turin, qui pour moi aussi rejoint un autre qui apparaît. C'est aussi chaque fois la science qui fait apparaître un autre. De quel message est-il porteur? Donc, vous voyez, donc à la question de l'autre, j'ajouterai aussi la question du message. Quel type de questions on peut se poser à nous-mêmes, finalement, dans notre intérêt, dans notre curiosité, donc la recherche d'un autre, et peut-être aussi la recherche de qu'est-ce qu'il a à nous dire.
Et puis, peut-être aussi la question de l'origine de la vie, savoir d'où nous venons. Est-ce qu'il existe vraiment une vie en dehors de notre planète Terre? Et si oui, comment? Et voilà exactement ce qu'il nous voudrait. Parce qu'en plus, ils ne seraient pas non plus forcés de venir nous voir, ces extraterrestres, si jamais ils existent. Je vous propose de marquer une seconde courte pause. Et puis, dans la troisième partie, nous allons parler du rapport Cometa, qui est un rapport, justement, qui a été rédigé par des militaires, donc qui a une voix, on va dire, quand même officielle. Et on trouve des choses peut-être qui font sourire, mais alors voilà, je vous propose d'en parler dans quelques instants, juste après la pause. À tout de suite.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Jacques Ernoux et de Pierre Lagrange. Dans cette dernière partie, nous allons pouvoir discuter ensemble d'un rapport qui a quelques années, qui date de 99, qui s'appelle le rapport Cometa. Cometa qui signifie Comité d'études approfondies, composé essentiellement de personnes, de militaires. Personnes,
et d'ingénieurs.
Et d'ingénieurs. Donc un document, on va dire, officiel. En tout cas, ce sont des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, ce document avait été remis à Jacques Chirac et Lionel Jospin à l'époque. Il y a 113 pages, et lorsque l'on lit les 113 pages, on a l'impression que la menace est proche. Comment ce document est arrivé entre les mains de Jacques Chirac? C'était une commande, certainement.
Par la poste.
Par la poste, c'est une bonne réponse. Et en général, ce sont des commandes, on demande à un comité de réfléchir sur une question. C'était le cas, Pierre Lagrange?
C'est ce que disait Jacques Ernoux, d'ailleurs, sur tout le problème du rapport entre l'autorité. La notion de rapport est déjà ambiguë. En général, dans ce genre de situation, une autorité liée à l'État ou un bureau et autres demande, fait faire une étude. Là, il n'y a pas eu de demande. Donc, ça n'est pas un rapport au sens strict du terme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, effectivement, sont par ailleurs militaires de haut rang, ingénieurs qui ont des compétences tout à fait réelles, qui se sont intéressés à ce sujet. Mais de leur propre chef, je dirais. Le Cometa, c'est une association ufologique comme il y en a plein. À part que les gens qui forment le gros de cette association ne sont pas des ufologues lambda, je dirais. Ce sont des gens qui ont un CV assez impressionnant. Et ils se sont intéressés de leur propre initiative à ce sujet. Et ce rapport, ils l'ont aussi écrit leur propre initiative. Et il se trouve qu'ils l'ont envoyé au Premier ministre et au Président, qui ont dû être les premiers surpris de le recevoir, parce qu'ils n'avaient rien demandé. Je pense que la vérité, elle est là. Donc il y a toute une ambiguïté sur, effectivement, des généraux et des ingénieurs parlent du sujet. Forcément, ça aurait un statut différent. Non, le statut n'est pas foncièrement différent. Simplement après, c'est est-ce que ce qu'ils disent est intéressant ou pas. C'est là où on peut avoir effectivement quelques surprises dans une partie du rapport au moins.
Alors, je vais vous lire quelques lignes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, j'ai pris les plus croustillantes, mais bref. Il est possible que les États-Unis en sachent beaucoup plus que nous et qu'ils aient effectivement récupéré une épave, entre parenthèses, à Roswell, point d'interrogation. On en a parlé, donc on aura compris. Donc, récupérer une épave, voire des cadavres, leur politique de secret, voire de désinformation sur les ovnis, peut avoir diverses causes, mais la plus importante est probablement leur désir de conserver pour eux le bénéfice technologique des recherches sur le sujet. Avec, là, pour le coup, ça corrobore l'idée de complot et même de guerre des mondes. Là, on revient 70 ans en arrière.
On revient même à la guerre froide. Et il y a plusieurs parties dans ce rapport. Il y a toute une partie qui consiste à lui cumuler des témoignages qui, eux, sont tout à fait, dans certains cas, très intéressants, puisque là, on retombe dans le problème classique de gens qui ont vu des choses et, dans certains cas, c'est des pilotes et tout, qui ont d'assez bonnes compétences pour observer. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont tout à fait d'intérêt. Là où le rapport devient un peu curieux, c'est effectivement quand les auteurs arrivent à supposer qu'il y a une connaissance positive sur ces faits détenus par les Américains. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la spéculation, on est dans les faits qui sont cachés quelque part, qu'il y a donc un secret, qui aurait éventuellement même du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils auraient tiré un bénéfice technologique, et qu'il y aurait un problème d'arriver à partager tout ça avec le reste de la communauté mondiale, et particulièrement les Européens. Là, je suis désolé de le dire aussi franchement, mais ça c'est l'ufologie la plus classique, c'est pas de la science. C'est-à-dire qu'une partie du contenu du rapport s'appuie sur tout un tas de rumeurs, qui sont de vieilles rumeurs en ufologie, comme quoi l'armée américaine n'aurait pas simplement des opinions sur le sujet, mais aurait des certitudes. J'attends, toujours pareil, qu'on me sorte le document qui établit que les Américains ont quelque chose de positif à dire sur les soucoupes volantes. L'armée américaine, comme les Français, comme partout, ont pataugé dans cette histoire de soucoupes volantes en se demandant comment ils allaient pouvoir s'en débarrasser. Et pendant 20 ans, ils ont traîné ce truc comme un boulet. Parce qu'en 1947, ils ont eu le malheur de commencer à parler de cette question. Et on a tout un tas de documents qui sont déclassifiés des archives militaires américaines qui montrent que à diverses reprises et de façon tout à fait sérieuse, les experts de l'armée américaine étaient effectivement très troublés par ce qui se passait. On a des documents qui montrent qu'ils considèrent que le phénomène est tout à fait réel et matériel. De ligne plus bas, ils précisent, malheureusement, nous n'en avons pas la preuve. Donc ça, je veux dire, c'est clair. Alors à moins de supposer après qu'ils sont sincères sur le côté « ça existe » et puis plus sincères sur le côté des preuves, alors ça devient très très compliqué à quel moment ils nous mentent, ils nous disent la vérité. Je pense qu'il y a un moment aussi, il faut aller un peu à la simplicité et se rendre compte que quand on accumule tout ça, s'ils avaient eu des preuves, d'abord ça aurait généré très concrètement des montagnes de papier. L'administration, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça génère du papier. Or, sur les ovnis, comparativement à d'autres sujets, c'est quand même des archives qui sont assez minces. Il y a eu un réel intérêt, mais on voit que cet intérêt n'a jamais pu dépasser un certain stade. Et notamment le stade de la mise en boîte noire, c'est-à-dire que le fait établi, il a toujours été chancelant. Donc, on n'a pas dépassé le stade des témoignages. On n'a pas dépassé le stade de l'analyse de ces témoignages dont on ne peut pas malheureusement tirer plus que ça. Et si on compare ces archives, moi je me suis amusé à le faire, à des archives dans d'autres domaines, sur les premières réflexions sur les satellites à la fin des années 40 et tout, ben on voit que les rapports n'ont absolument pas le même contenu. Quand on discute satellite, on voit tout de suite dans les calculs, dans des applications concrètes, pratiques et tout. Alors que sur les ovnis, on n'arrive jamais à décoller du débat sur quels sont les faits. Que ce soit des archives secrètes ou pas. Ce que l'armée américaine a caché, c'est, je dirais, son incapacité à régler le problème. Parce que, en tant que figure de l'autorité, c'était difficile d'aller dans les médias en disant, vous savez, on est totalement largué. Non, non, il fallait donner certaines images d'assurance et dire, bonne gens, vous pouvez dormir tranquille, nous surveillons le ciel. Malheureusement, non, ils étaient les premiers complètement largués. Quoi.
Pourtant, sur la base des témoignages, par exemple au CNES, il y a une manière de pouvoir classer les témoignages qui entrent au CNES en diverses catégories, hein, A, B, C, D.
Ça c'est le premier stade, c'est-à-dire qu'on collecte souvent indirectement via la gendarmerie des témoignages. C'est vrai que le fait simplement que les gens se présentent devant un gendarme, on se dit, bon, c'est,
fasse l'effort,
bon, c'est un certain effort et on accepte donc un regard du gendarme, avec la peur du gendarme, donc ça c'est plutôt une certaine validation. Et à partir de ce que l'on peut tirer de ces observations, parfois on ne peut rien en tirer parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Et d'autres fois, on peut commencer à ce moment-là à analyser, mener des enquêtes, ce qui a été fait depuis 30 ans avec les moyens de chaque époque et qui mérite toujours d'être amélioré. On a déjà eu des discussions avec Pierre Lagrange à ce sujet-là en utilisant aujourd'hui davantage des aides, c'est ce que nous disions, des aides aux observateurs, parce que tout le monde ne n'est pas observateur de phénomènes aérospatiaux. Il y a des astronomes, des aviateurs qui sont formés à ça, mais moi le premier, vous demanderiez de décrire un phénomène qui se passe à l'instant à la fenêtre de ce studio, je serais sans doute incapable. Donc comment aider à faire des portraits robots, enfin, ou si on pouvait. Là, il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses encore à faire, de manière ensuite à pouvoir effectivement dire, voilà, il y a un phénomène qui a été observé par monsieur ou madame une telle, à telle date, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut, dans quelle classe on peut, donc il y a des classes, quand on l'a déterminé, quand il reste indéterminé, ou quand il est dans des zones intermédiaires. Mais le CNES ne va pas au-delà de faire rentrer des faits d'observation dans donc une classe. Finalement, de non identifié, ça passe à identifié, ou alors ça reste identifié, alors même qu'il y a apparemment suffisamment d'éléments pour pouvoir faire avancer la chose. Ce sont les deux extrêmes.
Alors, sur le rapport Cometa, les témoignages sur lesquels ils se sont basés pour établir le rapport, ce sont les témoignages du domaine de l'aviation, civile ou militaire. Donc, ça laisse supposer, de la même manière, que justement, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir décrire, peut-être plus qu'une personne lambda, un phénomène, pour le coup, dans le ciel, à proximité d'eux.
Oui, bon, c'est vrai qu'un pilote est quand même plus entraîné que la plupart d'entre nous à observer le ciel. Mais là aussi, malheureusement, on fait souvent une confusion, bon, elle n'est pas totalement légitime, entre la figure d'autorité du pilote, l'étoffe des héros, quoi, et le contenu de ce qui est... Or, il faut quand même rappeler que pendant la guerre, par exemple, régulièrement, des pilotes repéraient des avions ennemis tirés dessus et se rendaient compte après que c'était la planète Vénus ou un astre particulièrement brillant. Donc, on peut faire des confusions même quand on est pilote. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir recours aux compétences du pilote dans son contexte. C'est-à-dire qu'un pilote qui est sur le plancher des vaches, qui observe un truc, il peut se tromper. Moins que la plupart des gens, mais il peut se tromper. On a des cas spectaculaires. Depuis son avion, il peut aussi se tromper. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est d'avoir recours à ses compétences, vraiment dans le cas où il peut utiliser son contexte technique, et les appareils auxquels il a accès et tout, pour faire son observation. Donc c'est légitime de s'intéresser à ce genre d'observation, parce que certaines, par exemple le témoignage de Jacqueline, qui est un pilote qui a été diffusé sur France 3 il y a quelques jours dans Pièce à conviction, honnêtement, quand on l'écoute, c'est extrêmement intéressant, c'est bluffant, on ne voit pas a priori ce qu'il a pu voir. Peut-être qu'il y a une explication, il faut la chercher, on ne l'a pas vraiment cherché jusqu'ici, mais son témoignage est extrêmement intéressant, et on se dit qu'en plus, c'est quelqu'un qui est visiblement à la tête sur les épaules, et il n'a pas des hallucinations tous les 4 matins. Donc, c'est tout à fait légitime de s'intéresser à ce genre de récit. Après, il faut vraiment les utiliser dans un contexte de réflexion qui soit approprié. Et j'ai peur que malheureusement, la seconde partie du rapport Cometa dessert la première. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'on part sur de bonnes bases et ensuite ça part dans les choux parce qu'on part sur les secrets américains et tout ce qui s'en suit. Parce qu'on est un peu nostalgique d'une certaine époque qui est révolue. Je veux dire, la guerre froide, il faut l'enterrer à un moment donné. Donc, il y aurait toute une autre réflexion qui malheureusement n'a pas été élaborée dans ce rapport et qui aurait permis de donner une meilleure assise à ce genre de faits qui sont, à mon avis, clairement dignes d'intérêt.
Une information supplémentaire. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de visiter à Mont-de-Marsan, un lieu de formation des pilotes français et d'autres, où la grande leçon, c'est attention à ce que vous voyez. On met les pilotes dans des situations un peu particulières pour leur montrer que ce qu'ils voient est faux et qu'il faut qu'ils se repèrent à leurs instruments. Donc, ça ne va pas en contradiction par rapport à ce qu'on va dire.
Oui.
Ce qu'on vient de dire, il y a effectivement des capacités de visuelles que l'on met en avant chez un pilote et en même temps de leur dire attention à ce que vous voyez. Ce que vous voyez peut être complètement faux. Donc, la preuve que dans le métier lui-même, on reconnaît les limites de ses propres capacités visuelles ou en tout cas physiques. Ensuite, je rejoins ce que dit Pierre Lagrange quant au rapport Cometa, que je connais moins bien et je n'ai pas toutes les capacités d'analyse. Pour moi, il est aussi, en même temps l'illustration de ce danger de l'autorité et de la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que, précédemment, vous l'aviez indiqué, les rédacteurs de ce rapport, parmi leurs nombreuses références, mettent en avant celle d'être auditeur de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Je suis moi-même un ancien auditeur de l'IHEDN. Je ne vois pas en quoi cette référence-là, alors que très souvent elle est mise en avant par rapport à ce rapport,
oui,
je vous avoue, quitte à peut-être perdre demain, non pas ce rattachement-là, mais que quand j'ai lu ce rapport et que j'ai vu qu'effectivement elle a été mise en avant, j'ai trouvé ça pas très honnête. Parce que il y a des parties qui sont tout à fait intéressantes, mais d'autres qui, très sincèrement, ne sont pas très sérieux. Et relèvent plus, comme disait Pierre Lagrange, peut-être une certaine nostalgie, peut-être aussi on veut attirer l'attention en disant « attention, il y a un danger, il faut mettre si on en voit arriver, qu'est-ce qu'il faut faire ?»
C'est vrai que c'est captivant, on est dans le domaine un peu de la science-fiction,
oui,
donc c'est plaisant à lire.
Attention, parce que là, on rapproche des éléments effectivement tout à fait objectifs, d'éléments beaucoup plus subjectifs, et tout ça avec une étiquette qui, par rapport aux personnes, est une plus-value peut-être, mais par rapport à l'institution, on met aussi en cause une institution qui peut-être, je ne dis pas qu'elle ne mérite pas, mais attention. Ouais. Donc c'est ça que je dis, le rapport à l'autorité et à la vérité.
L'IHEDN s'est très vite démarqué du rapport. C'était vraiment la première réaction, disant on n'a rien à voir avec ce document. Donc on voit bien que quelque part c'est... Alors on peut comprendre, ceci dit, quelque part aussi on pourrait dire c'est très courageux de la part d'ingénieurs et de militaires de mettre les pieds dans le plat et de dire il y a un problème, il faut l'étudier. Jusque-là, je veux dire, on est entièrement d'accord. Après, il ne faut pas non plus se tirer dans le pied. Et dans le rapport, il y a une différence qui est établie entre ce qu'ils appellent la désinformation amplifiante et puis l'autre désinformation qui consisterait à minimiser les faits. C'est-à-dire que, en gros, pendant longtemps, l'armée américaine a dit les sous-coulantes, c'est la planète Vénus, des inversions de température et tout ce qui s'ensuit. En gros, on minimise les faits. Et ils disent, de notre côté, l'armée américaine a peut-être lancé de fausses rumeurs, s'il Roswell ou autre, pour ridiculiser le sujet. Moi, je me dis, avec ce rapport, ils font quoi comme des informations? Elle est un peu amplifiante pour le coup, parce que c'est vrai que nous lancer tout de suite sur la guerre des mondes et sur les mesures à prendre, pour beaucoup de gens, ils vont se dire, est-ce que c'est vraiment lié au dossier OVNI, tout ça? Est-ce qu'on a besoin de prendre autant de mesures draconiennes? Donc, on se dit que, ou alors, ils font effectivement cette désinformation, on se dit, pour qui ils bossent, en gros, ou alors ils se sont laissés un peu trop prendre à leur jeu. Et dans les deux cas, c'est un peu dommage, quoi.
Dans la dernière partie de ce document, juste avant de terminer cette émission, il y a une partie, les recommandations, bien sûr, et notamment comment les gouvernements peuvent essayer de faire face à une possible attaque, puisque peut-être que ces extraterrestres viendraient pour être amis avec nous, mais pas forcément. Est-ce que, par exemple, au CNES, c'est des questions qui sont discutées au GEPAN ou pas du tout,
Jacques Arnoux? L'accueil d'extraterrestres...
l'accueil éventuel.
Non, parce que le GEPAN reste bien, c'est bien limité, sa mission. C'est ses phénomènes. Alors, le terme de phénomène est assez large, déjà. C'est pas seulement des objets, c'est tout phénomène aérospatial non identifié. Et le but, pour l'instant en tout cas, c'est de recueillir ces observations et de savoir dans quelle classe on la met. Et puis ensuite, d'en constituer effectivement cette banque de données et aujourd'hui de la rendre publique. Voilà, c'est déjà pas mal. Avec quand même l'objectif, il suffit entre guillemets de le réaliser, c'est effectivement de pouvoir s'articuler à ce que Pierre Lagrange a mentionné à plusieurs reprises, qui est un travail scientifique derrière. Parce que, et c'est, je crois, effectivement, le courage de certains auteurs aujourd'hui, de dire, attention, il y a il y a de la science à faire avec toutes les règles de la science qui jusqu'à présent malheureusement n'ont pas été mises en œuvre. Donc là, le CNES, comme d'ailleurs dans sa mission en général, n'a pas à bord, si je puis dire comme ça, des scientifiques. On travaille énormément avec le milieu des sciences. Si on peut, grâce à ces 30 ans d'existence et puis à ceux qui veulent suivre, fournir une matière de plus en plus intelligente, ou en tout cas élaborée, pour qu'ensuite de la science, de la vraie science, si je peux parler comme ça, se fasse, tant mieux. Mais il y a vraiment du travail à faire de ce point de vue-là.
Pierre Lagrange, pour terminer cette émission, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, il y a une chose, parce que je pense que quand on parle d'OVNI, il y a quand même une question qui revient tout le temps, c'est celle des extraterrestres, justement. Quel est le lien, je dirais, entre les deux sujets ? Pendant longtemps, la réponse des scientifiques était assez classique, consistait à dire il y a sans doute de la vie ailleurs, mais les distances sont trop grandes, ils ne peuvent pas venir, donc oubliez, en gros, s'il y a des extraterrestres, on fera éventuellement de la radio de façon très décalée, mais pas, on ne va pas leur serrer la main. Je pense que c'est pas une réponse très satisfaisante, parce que de l'aveu même des scientifiques quand ils débattent, le cœur de la réflexion sur les civilisations extraterrestres, c'est le paradoxe de Fermi. C'est-à-dire que s'il y a des civilisations ailleurs dans l'univers, il y en a, l'univers est vaste, donc ça veut dire énormément de civilisations, et sur des échelles de temps beaucoup plus grandes que celles que les civilisations sur Terre. Nous, on compte en centaines et milliers d'années. Dans le cosmos, on compte en millions, dizaines, centaines de millions d'années. Donc, s'il y a des civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre, on peut imaginer que pour eux, voyager dans l'univers, c'est comme nous prendre le métro. Et je pense qu'il ne faut pas s'appuyer trop sur la doctrine des choses actuelles, comme disait Bergson, c'est-à-dire se focaliser sur notre époque et
les
bornes du réel. Donc, je trouve que c'est tout à fait légitime que les gens s'intéressent aux ovnis, par rapport à cette idée de visite extraterrestre. Alors après, encore une fois, ça dépend ce que l'on met derrière. Mais la réflexion en elle-même est tout à fait intéressante, puisque les scientifiques ont commencé par la poser eux-mêmes dans les années 50. Les scientifiques comme Enrico Fermi ont dit « si les extraterrestres existent, ils devraient être ici. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas ?» Donc on ne peut pas envoyer promener le sujet en disant « non, a priori, les extraterrestres, c'est exclu. » Et je crois qu'au contraire, c'est un sujet de réflexion et scientifique et philosophique d'une richesse inouïe. Et ça serait vraiment trop bête de se priver de réfléchir à ces questions-là, parce que c'est l'ouverture. Notre science est toute jeune, notre civilisation aussi, et je crois que l'avenir reste vraiment à écrire. On fait l'histoire des sciences, mais la prospective des sciences est un domaine encore plus vaste et important. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer toutes les innovations qui restent à venir, à condition qu'effectivement Dieu nous prête ou la technologie nous prête vie. Mais ça, c'est à nous d'en décider aussi collectivement. Donc je pense que ces questions sont extrêmement intéressantes, et ce n'est pas faire de l'anti-science que de les poser. Et je pense que le public, en la posant régulièrement, rappelle aux scientifiques qu'il y a un vrai sujet philosophique et scientifique d'une rare richesse, et que c'est dommage de passer à côté.
Eh bien, merci. En attendant les ovnis de livres, de lecture, le premier, le vôtre, Pierre Lagrange, qui vient de sortir, hein, OVNI, ce qu'il, majuscule, ils ne veulent pas que vous sachiez. Peut-être que vous pourriez nous en dire deux mots.
Mais disons que je discute beaucoup de la théorie des complots, justement. Et je montre que c'est une théorie qui a son symétrique dans le discours rationaliste, qui a longtemps cru que la science était assiégée par les forces de l'irrationnel et qu'il y avait une espèce de complot des médias, des astrologues et tout, pour abattre la science. Et c'est en gros le symétrique de la théorie sur laquelle on nous cache la vérité. Et je discute notamment les conclusions du rapport du Cometa,
voilà, les
et la façon dont ils abordent voilà, tout ça.
Alors ça, c'est aux éditions presse du Châtelet, donc, qui est paru en juin 2007, donc tout frais. Et puis le second livre, Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science ou à la direction d'Yves Sillard, un livre qui a été donc publié à l'occasion de la mise en ligne des archives publiques donc, du GEPAN. Jacques Arnoux, vous avez rédigé un chapitre sur la dimension humaine de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Merci de nous avoir rendu visite pour cette émission passionnante. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous écouter. J'espère que nos auditeurs aussi. Et puis, j'espère peut-être à bientôt pour une prochaine émission. Et si jamais on reçoit la visite d'extraterrestres, peut-être que vous pourrez nous en dire plus sur leur mode de vie. À très vite et merci beaucoup. Au revoir.